Radio Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce journal. On commence tout de suite avec le grand titre de ce matin. FMI, un appui de 262 millions de dollars pour la RDC. Ce financement intervient alors que le pays fait face à des graves défis sécuritaires à l'Est. Le représentant du FMI appelle à plus de rigueur dans la mise en œuvre des réformes, notamment sur les dépenses d'urgence. RDC, plus de 2500 ONG exigent justice pour les victimes des conflits armés. Dans une déclaration conjointe, elles appellent à une véritable justice transitionnelle fondée sur la vérité, la réparation et les garanties de non-répétition. Maniema, une usine d'oxygène médical pour renforcer le système de santé. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, le docteur Marie-Albert Chinzemba Chitompa, chef de division du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, revient sur cette dotation du gouvernement congolais qui marque un tournant dans la prise en charge des patients en détresse respiratoire dans la province. Nous ouvrons ce journal avec une véritable bouffée d'oxygène financière pour la République démocratique du Congo. Le Fonds monétaire international vient de débloquer près de 270 millions de dollars en faveur de Kinshasa. Un appui crucial alors que le pays fait face à des graves défis sécuritaires, notamment dans sa partie orientale. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Kapi, le représentant du FMI en RDC appelle les autorités congolaises à intensifier les efforts pour éviter le retard dans la mise en œuvre des réformes, en particulier celles liées à la gestion des dépenses en mode d'urgence. Un reportage signé Michel Kifindangoy.
À en croire le représentant pays du FMI, les fonds décaissés sont spécifiquement destinés à renforcer les réserves internationales de la RDC et à constituer des marges de manœuvre essentielles face aux chocs imprévus. René Tapsoba.
L'enjeu ici, c'est de poursuivre ce renforcement de la résilience économique du pays en consolidant les gains de stabilisation macroéconomique, mais aussi en approfondissant et en accélérant surtout les réformes structurelles, d'assurer une mobilisation des recettes budgétaires et aussi d'améliorer tout ce qui est transparence et gouvernance.
En dépit des décaissements de 262 millions de dollars, le FMI a tout de même identifié les lacunes dans la mise en œuvre de ces réformes, souligne le représentant pays du FMI.
Premièrement, le critère quantitatif relatif au plafond sur le déficit budgétaire intérieur qui a été dépassé en raison des niveaux élevés des dépenses exceptionnelles de sécurité et aussi de l'augmentation des investissements.
Le FMI devrait décaisser jusqu'à 3 milliards de dollars si le gouvernement exécutait fidèlement les réformes en cours.
Province du Tanganyika, un dépôt de carburant a pris feu avant-hier dimanche dans la cité des Congolos. Selon des sources locales, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Cet incendie met en lumière la problématique du stockage des carburants dans les quartiers résidentiels, surtout que Congolo ne dispose pas de stations-service opérationnelles. D'après ce même source, il s'agit du cinquième dépôt de carburant à prendre feu depuis l'année dernière. Reportage de Paulin Munanga.
Des témoins à Congolo rapportent que l'origine du feu serait une cigarette allumée à l'extérieur du dépôt d'essence et de gazole par un client. Et les flammes se sont propagées. Les dégâts matériels sont importants. Une centaine de fûts d'essence et plus de 200 bidons de 20 litres de gazole sont partis en fumée. Les mêmes sources signalent que le bâtiment touché par les feux abritait également un dépôt de planches et un bureau d'une association. Une maison d'habitation et un atelier de soudure situé juste à côté du dépôt n'ont pas été épargnés par les flammes. Les témoignages recueillis sur place font savoir que le propriétaire du dépôt incendié qui se trouvait à l'intérieur a été secouru de justesse et s'en est sorti avec quelques brûlures. Les mêmes sources annoncent que dans la cité de Congolo, il n'y a pas de station-service. L'unique station-service est encore en construction depuis quelques années. Le carburant est vendu par des particuliers qui détiennent des dépôts dans des quartiers résidentiels. Il est à noter qu'en 2024, 4 dépôts de carburant ont pris feu dans la cité de Congolo. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
À Beni, au Nord Kivu, depuis 4 jours, la ville est frappée par une pénurie de carburant qui perturbe sérieusement le quotidien des habitants. En cause, la grogne des opérateurs économiques contre une nouvelle réglementation douanière jugée contraignante sur la déclaration des produits pétroliers. Conséquence directe, environ 60 camions citernes venus d'Afrique de l'Est sont bloqués aux portes de la ville et le prix s'envole. Le litre d'essence, autrefois à 3400 francs congolais, s'achète désormais à 5 000 francs, voire 6 000 chez les revendeurs surnommés Kadhafi. Même les mototaxis trinquent. Une course qui coûtait 1 000 francs atteint ce lundi le 3 000 francs congolais. Et Jean Kambale Matembela de l'Association congolaise de commissionnaires agréés en douane assure que des négociations sont en cours entre la DGDA et les opérateurs économiques pour lever le blocage. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
La situation n'est pas d'abord nouvelle. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle structure de prix qui a été publiée, les opérateurs économiques, parfois, ils ont du mal à s'y adapter. Mais la réalité, c'est que la structure a toujours été publiée, soit à la fin du mois, ou soit après 2 ou 3 mois. Et à chaque fois que cela est fait, s'il y a de petites modifications qui ont été constatées dans la structure, parfois, ça crée ce que vous observez aujourd'hui. Ce qui pose problème, effectivement, c'est l'adaptation des opérateurs économiques à respecter la structure de prix. Nous tous, nous sommes en train de faire un effort pour sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils respectent la structure de prix. Il n'y a pas autre chose que ça. La structure de prix, c'est la norme, c'est la réglementation des produits pétroliers. Donc, il n'y a personne qui peut vendre son propre prix dans la douane pour dire, moi, je vais payer autant. Elle n'est pas négociable. Nous, les déclarants à douane et les douaniers, nous appliquons tous la structure de prix. Et nous n'avons pas des arrangements locaux à faire ici avec les douaniers pour faire autre chose que ce qui a été publié.
Direction Otouélé, la mobilisation lancée par la synergie de la société civile de ce lundi n'a pas trouvé d'écho. Résultat, les activités ont tourné comme à l'accoutumée, notamment à Isiro, chef-lieu de la province. Selon plusieurs sources locales, ces manques d'adhésion seraient liés à une contre-offensive lancée la veille par certaines structures des mouvements citoyens. Ces dernières dénoncent une initiative jugée inappropriée et peu constructive dans le contexte actuel. Martial Kisabiamungo nous fait le point.
Ce lundi matin, la circulation est restée fluide dans les principales rues et artères d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Boutiques, magasins, marchés, écoles et universités ont fonctionné normalement et les activités socio-économiques se sont déroulées comme dans l'accoutumée. Des sources locales déclarent que la population n'a pas suivi les mots d'ordre de la synergie de la société civile du Haut-Ouélé. La veille, la synergie des mouvements citoyens s'est opposée à cette démarche de la société civile. Selon cette structure, la présomption de détournement des fonds publics et la vente des concessions dans la zone d'Akokoma par certaines autorités étatiques font l'objet d'une enquête par la commission de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Pour ces mouvements citoyens, décrétés une ville morte à ce stade, c'est appauvrir davantage la population qui vit au taux du jour. Cette structure exhorte la société civile à privilégier l'intérêt général de la population dans sa démarche. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Elles sont plus de 2500 ONG de défense de droits humains à hausser la voix pour les victimes de crimes internationaux en République démocratique du Congo. Dans une déclaration conjointe rendue publique le 5 juillet, elles réaffirment leurs engagements aux côtés de survivants des conflits armés qui ravagent le pays depuis trop longtemps. Ces organisations appellent à restaurer la paix et à redonner toute leur dignité aux victimes. Elles dénoncent l'injustice persistante, l'oppression silencieuse et exigent la mise en œuvre d'une véritable justice transitionnelle fondée sur 4 piliers essentiels, la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition. Maître Patient Bachombe, président du comité de crise de la société civile pour la paix et la sécurité en RDC, s'est exprimé au micro de Jeff Ngoy.
À titre de vérité, le dialogue national inclusif envisagé en RDC ne doit pas se conclure à la gratification des belligérants, mais au consensus interne sur la cohésion nationale ainsi que l'organisation des élections crédibles. Nous rappelons à l'État congolais ses obligations constitutionnelles de protéger les droits des victimes et de garantir que la justice soit rendue dans le respect des normes internationales des droits humains. Nous exhortons la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, à appuyer la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle crédibles et dirigés vers les victimes, de soutenir l'établissement des chambres mixtes spécialisées pour la RDC, comme proposé dans le rapport Mapping des Nations Unies, ainsi que tous autres rapports ultérieurs des experts des Nations Unies.
Du mouvement du côté du ministère de la Justice à Kinshasa, hier lundi, le ministre ad intérim a reçu tour à tour le représentant des églises de réveil pour un échange sur l'exercice du culte en République démocratique du Congo. Au cœur des discussions, la suppression du fameux folio 92, ces documents qui servaient jusque-là d'accusés de réception pour les églises en attente de reconnaissance juridique. Le gouvernement a décidé de le retirer, une décision qui change les règles du jeu pour de nombreuses communautés religieuses. Blaise Nongala Mayanda nous éclaire sur cette rencontre.
De nombreux chefs religieux ont tour à tour défilé au cabinet de travail du ministère ad intérim de la justice pour débattre de la question du fonctionnement de leur organisation. Ils disent avoir été informés de plusieurs réformes engagées par le gouvernement pour assainir ces secteurs de la vie. Les premiers groupes reçu est celui du Bishop Bravo, qui en sortie de l'audience affirme avoir émis son avis autour du processus d'acquisition du passeport diplomatique, de la suppression du folio 92 ainsi que de la manière dont les cultes devaient être organisés. Ce dernier s'est réjoui que des aspects définis lors des états généraux de la justice aient été mis en place pour l'intérêt des confessions religieuses et du gouvernement. À son tour, l'évêque général Albert Kakenza juge nécessaire que les églises fonctionnent conformément aux lois du pays.
Et je demande aussi au ministre de pouvoir recevoir des pères de ma génération pour qu'ils puissent aussi les entendre. Nous exerçons le ministère dans un pays et le pays a des lois et on est appelé à se soumettre aux lois du pays. C'est très important.
Depuis quelques temps, le ministre Samuel Mbeba entreprend des séances de travail avec les différentes compositions de son portefeuille. Le week-end dernier, c'était le tour des magistrats à travers leurs différents syndicats.
Éducation, clap de fin amer pour l'année scolaire 2024-2025 dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Une année marquée par l'insécurité persistante qui a littéralement mis à l'arrêt plusieurs établissements scolaires dans certaines zones comme le groupement Boabo. C'est le silence des salles des classes qui a régné tout au long du second semestre. Pas un seul cours, pas un seul élève. La guerre qui secoue la région depuis janvier a tout balayé à son passage. Une dizaine d'écoles primaires et secondaires n'ont tout simplement pas pu ouvrir leurs portes. Une situation dramatique dénoncée par les défenseurs de droits humains qui alertent sur les conséquences à long terme pour toute une génération d'enfants privés d'éducation. Ils tirent la sonnette d'alarme. L'accès à l'éducation dans les zones de conflit est en péril et avec lui l'avenir de milliers d'enfants. Le point complet sur cette situation préoccupante, c'est avec vous, Élise Kavira.
Ce sera une année presque blanche dans au moins 20 écoles de la chefferie des Barundé ainsi que du secteur Osobanyungu entre autres. Des attaques armées et affrontements entre les M23 et l'armée congolaise soutenue par les groupes armés locaux, suivis des déplacements massifs des populations, ont rendu difficile l'accès aux écoles pour de nombreux enfants. Une situation qui a contraint plusieurs écoles à suspendre les activités. C'est seulement vers le mois de mai dernier qu'avec trop de peine, les autorités scolaires ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de mobiliser les élèves, en particulier des classes terminales, à reprendre les cours. C'est avec l'intention de sauver un tant soit peu l'année scolaire. Si quelques élèves dans leur milieu d'exil ont été réinsérés dans des écoles existantes, ils sont des milliers à voir carrément leur année inachevée. Les écoles secondaires Boabo, Buzihe, Butiro, Mukubango, Lutangarwa, Kiroche et Masika, ainsi que les écoles primaires Muhanga, Babo, Boabo, Kihumba, Masika, Shakingi, Tete sont entre autres écoles affectées. Nos sources parlent aussi des écoles primaires Bushihi, Showa et Mbiti dans le groupement Banyungu qui rallonge la liste jusqu'à présent non exhaustive. Une situation déplorée par les acteurs de la société civile du territoire de Masisi au moment où l'année scolaire touche à sa fin.
Au Congo central, le nouveau commissaire provincial de la police, Bertin Yawe Soumanda, a marqué les esprits lors de sa toute première parade tenue ce lundi à l'état-major de la police à Matadi. Dans une ambiance solennelle, il a remis une importante quantité de menottes au chef de la police criminelle de la province. Objectif affiché, mettre fin à l'usage des cordes lors des arrestations de présumés criminels, une pratique souvent critiquée pour ses dérives. Pour le commissaire Soumanda, cette dotation symbolise une volonté claire, celle de professionnaliser les interventions policières et de garantir le respect de droits fondamentaux. Le point complet avec notre correspondante sur place, Nana Plurich Mambou.
C'est l'eau importante des menottes, le commissaire provincial de la police l'a remis à son adjoint en charge de la police judiciaire, qui ensuite a confié son utilisation au responsable de la police criminelle. Cette acquisition permettra de procéder aux arrestations avec respect des droits humains, comme l'indique le commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yawe Soumanda.
Et j'ai veillé à ce que tout se fasse dans le respect des droits de l'homme. Qu'il n'y ait pas de torture, qu'on puisse arrêter les personnes qui sont arrêtées, qu'on puisse réunir les preuves qu'il faut et qu'on puisse déférer les personnes qui sont à déférer auprès des instances avec des preuves irréfutables.
Au cours de cette parade, marquant sa première prise de parole devant les éléments de la troupe, les responsables de la police du Congo central ont mis en garde tout policier impliqué dans les activités criminelles en province.
Quand je suis arrivé ici, il y a 2 semaines de mon arrivée, j'avais arrêté un policier qui était dénoncé par la population du quartier. On l'a arrêté, on l'a envoyé à l'auditorat. Pour dire que si nous voulons combattre les criminels, nous devons faire d'abord le toilettage dans nos rangs. Donc si dans nos rangs, il y a des brebis galeuses, on doit les dénicher, les démasquer, les mettre hors d'état de nuire.
Bertin Yawe Soumanda a clôturé la parade en réitérant l'appel à la dénonciation et en appelant les policiers à la discipline, au travail ardu ainsi qu'au respect des institutions légalement établies. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, hier lundi, les autorités ont verrouillé la capitale, route barrée, présence massive de forces de l'ordre, objectif affiché, empêcher le rassemblement marquant le 35 ans du mouvement Saba Saba, ces soulèvements historiques du 7 juillet 1990, lorsque les Kenyans ont exigé le retour à la démocratie sous le régime autoritaire de Daniel Arap Moi. À midi, de heurts sporadiques ont éclaté entre des jeunes manifestants et la police anti-émeute, notamment sur l'une des principales artères de la ville, alors que plusieurs centaines de personnes tentaient de défiler. Une commémoration hautement symbolique cette année dans un contexte de tension accrue. Les appels à manifester ont largement circulé sur les réseaux sociaux, galvanisés par la répression sanglante des mobilisations de juin qui ont fait plusieurs dizaines de morts.
L'invité.
Aujourd'hui, nous recevons le docteur Marie-Albert Chinzimba Chitompa, chef de division du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et membre actif du groupe de travail sur l'oxygène médical dans la province du Maniema. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, il revient sur une avancée capitale pour les systèmes de santé locale, la mise en service d'une usine de production d'oxygène médical récemment dotée par le gouvernement congolais. Il répond aux questions de Florence Kizal. Lunga.
Docteur Chizimba Chitompa, Marie-Albert, bonjour.
Bonjour, Maman Florence.
Une usine de production de l'oxygène médical implantée dans la province du Maniema, ça vient résoudre quel problème?
Merci beaucoup, Madame. La question que vous posez demande justement que nous puissions recourir aux origines. Le pays a été frappé par une pandémie COVID-19. Cette pandémie à COVID-19 a occasionné plusieurs décès, mais principalement, ces décès étaient dus à la quasi-absence de l'oxygène médical. Presque sur l'ensemble du pays, la province du Maniema n'a pas été épargnée. Voilà pourquoi le gouvernement central, grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de doter la province du Maniema d'une usine de production de l'oxygène médical en vue de pouvoir prévenir et également guérir tout cas de détresse respiratoire, tout cas d'hypoxémie et toute éventualité liée au manque d'oxygène dans le corps d'un patient. Et ce, c'est dans la vision de la couverture santé universelle du chef de l'État où la résilience est prônée.
Alors, quelle est la capacité de production de cette usine?
Cette usine a d'abord des bouteilles d'oxygène ou cylindres d'oxygène à B50, donc capacité de 50 litres. Mais c'est rempli à la pression de 150 bars. Ce qui veut dire que la bouteille en tant qu'unité, le contenant, va prendre à peu près 7500 litres. Mais l'usine en soi produit par 24 heures 52 cylindres d'oxygène.
Qu'en est-il de prix? Parce que nous savons que l'oxygène médical, ça se vend. Est-ce que le prix sera abordable même au plus diminué?
Si, effectivement. J'ai bien évoqué la couverture santé universelle qui voudrait à ce que les soins de santé soient rapprochés de la population et que ces soins soient accessibles, ces soins soient également de qualité. L'accessibilité tant financière que géographique est prônée dans la couverture santé universelle. Le coût sera abordable par rapport au pouvoir d'achat de la population. Je vous donnerai un exemple. À Kinshasa, il y a eu des hôpitaux qui auparavant vendaient un cylindre d'oxygène B50 à 100 dollars et au jour d'aujourd'hui, ils sont à 10 dollars. Il y en a même qui sont à 15 000 francs actuellement grâce à la création du groupe de travail sur l'oxygène médical par le secrétaire général de la santé. Et le groupe de travail sur l'oxygène, son président a planifié que chaque province obtienne au moins une usine de production d'oxygène médical, ce qui est en train d'être fait puisque on est jusqu'à ce jour à 23 provinces qui ont déjà chacune au moins une usine de production d'oxygène. Cela fait que puisqu'il y a la présence de l'oxygène, le coût aussi diminue. Mais j'aimerais toujours rappeler une chose. L'oxygène est un médicament essentiel. Il est vital. Tout homme a besoin de l'oxygène. Voilà pourquoi, comme produit vital, il mérite même une subvention. Si même vous me parlez du coût, le coût là c'est juste pour arriver à la maintenance curative et préventive de l'unité de production de cet oxygène médical.
Mais l'usine est installée au chef-lieu de la province. Ça sera comment les modes d'approvisionnement pour les hôpitaux qui se trouvent par exemple à l'intérieur de la province?
Avec la division provinciale de la santé, avec l'ensemble des zones de santé, il faut faudra qu'un réseautage soit fait, placer les institutions qui administrent l'oxygène médical en réseau en fonction de leur distance et leurs éloignements. Faire parvenir l'oxygène jusqu'aux confins de la province du Maniema demande justement qu'une équipe ou une société, une entreprise, une coopérative se crée pour le transport de l'oxygène médical vers ces structures. Et cela doit être coordonné par le groupe de travail sur l'oxygène médical en consortium avec la province. Je dois dire que nous avons beaucoup plus de motos ici et que ça soit strictement interdit de faire porter un cylindre d'oxygène sur une moto. En effet, l'oxygène est flammable. Si une bouteille tombe, éclate et crée un incendie, c'est dangereux. L'oxygène sauve, mais il faut bien le gérer avec beaucoup de précautions.
Docteur Chizimba Chitompa, Marie-Albert, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était le docteur Marie-Albert Chizimba Chitompa, chef de division du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et membre du groupe de travail sur l'oxygène médical dans la province du Maniema. Il s'exprimait au micro de Florence Kizalunga à propos de la mise en place d'une usine de production d'oxygène médical, une avancée majeure pour le système de santé dans la région. Et voilà, ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre attention tout au long de cette session d'information. N'oubliez pas que l'information continue et que nous serons ravis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez connectés. À très bientôt.